L'Exode, le plus grand mouvement de population de l'histoire de l'humanité. Pour fuir une dictature en devenir, plusieurs millions de personnes vont traverser l'univers en direction d'une petite planète froide et aride, Antares 4. Feelgood, ingénieur de son état, a pris ses fonctions à bord du transporteur numéro 7, tandis que la princesse Azala, fille de l'ancien roi déchu, retrouve avec passion la commandante Aurora Benkana, avec qui elle avait eu une liaison. Pendant ce temps, sur Materwan, leur planète d'origine, le chef des services de la sécurité et surtout des redoutables sections mentales tisse sa toile. C'est le contre-amiral Pophéus. Il est assisté dans ses besognes par son second, le lieutenant Ralato. 7 transporteurs ont maintenant pris leur envol du sol de Materwan et se dirigent vers l'orbite haute de la planète.
Raid Universe. Chapitre 2. Au commencement était la flotte.
Les satellites de surveillance glissaient lentement sur leurs orbites, observant la vie qui s'écoulait sur Materwan avec ses nuages, ses océans, la taille de ses villes, le parcours de ses autoroutes, les migrations de ses citoyens, les départs de ses vaisseaux. Pourtant, aujourd'hui, nombre d'entre eux étaient pointés dans une direction inédite, l'espace proche de Materwan, l'orbite de transit. Leurs objectifs se focalisaient sur le plus grand déplacement interplanétaire de population de l'histoire de l'humanité, l'Exode. 7 transporteurs, soit plus de 3 millions de personnes, des tonnages infinis de métal, de vivres, de passagers ou de fret, provenant des 4 coins de la planète et représentant la quasi-totalité des corps de métier. La flotte se ravitaillait à la station d'accueil principale, surnommée Maman Lolo par les marins de l'espace, en référence à sa fonction de nourrice des véhicules spatiaux, et les entrepôts mettraient une bonne semaine à tous se remplir. Ainsi, les équipages en profitaient-ils pour peaufiner les préparatifs? Révisions et demandes supplémentaires de matériel, les passagers s'installaient dans leurs nouvelles fonctions, les familles dans leur quartier, bref, nous étions à l'heure de la seconde étape des préparatifs du départ proprement dit. Phil terminait sa ronde avec l'équipe de maintenance. Les structures du vaisseau lui semblaient un peu douteuses quant à leur fiabilité sur le long terme. Il vaudrait mieux ne pas trop affronter de tempêtes de météorites. Mais pour un voyage d'un peu plus d'un an, et avec un bon entretien, il se faisait fort d'amener tout le monde à bon port. Ses kilomètres de circuits, vannes et autres ponts en avaient connu de nombreuses transitions hyperspatiales. Il faudra prendre soin de cette vieille dame. Prenant congé de ses collaborateurs, il retourna se changer dans sa cabine pour enfiler une tenue civile, sous les yeux ensommeillés d'un vivagel ronflant et bien nourri. Sa dernière visite de la station Maman Lolo remontait à une classe de voyage d'été durant son enfance. Maintenant aux portes d'un départ définitif de cette région de l'espace, il trouvait judicieux d'aller s'y balader une dernière fois. La main sur l'interface d'ouverture de sa cabine, tout impatient de faire un peu de tourisme, il ouvrit la porte, mais deux yeux bleus perdus au milieu d'un ouragan de blondeur lui firent face. Une clé magnétique à la main, une inconnue s'apprêtait visiblement à entrer et elle ne s'attendait pas à voir la porte du compartiment s'ouvrir toute seule. Sous la surprise, elle hurla, lâchant la clé.
Wow.
Phil cria par réaction, et les deux protagonistes restèrent immobiles, sans réagir, sous le regard bovin d'un vivagel qui pensait que, décidément, les humains avaient du temps à perdre en bêtises. Le temps d'un clignement de paupières, le lieutenant détailla la jeune femme. Environ 25 ans, un peu plus grande que lui, une poitrine avenante et essoufflée, petites lunettes fines, une mâchoire volontaire, quelques taches de rousseur. À vue de nez, une mécanicienne elle aussi. Ce qui expliquait sa présence dans ce coin du vaisseau, réservé à l'équipage. 3 gros sacs de sport bien remplis complétaient le tableau. N'en pouvant plus, les deux éclatèrent simultanément d'un rire qui dura bien quelques longues secondes. En ces temps d'inquiétude sur l'avenir, ce genre de distraction était salvatrice.
Oh, excusez-moi, je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un, je crois que je suis perdue.
Ce n'est rien, moi-même ce fut pareil à mon arrivée. Je me nomme Feelgood. Puis-je vous aider avec vos bagages ?
Non, non, je ne veux déranger personne. Je cherche seulement ma cabine pour tout poser. C'est plus léger que cela en a l'air, vous savez. Merci quand même.
Esquiva l'inconnu. Mais Phil se sentait d'humeur joueuse et il avait du temps à perdre.
La sueur sur votre front démontre le contraire, et ce serait un manquement au règlement que de laisser qui que ce soit hors de la sécurité de sa cabine pour le départ. Je pourrais avoir un terrible blâme, vous comprenez?
Vous savez, le départ n'est pas prévu avant plusieurs jours, monsieur Good.
Rétorqua la belle malicieuse. Son léger rire flûté accentua la ténacité du lieutenant.
Vous ne connaissez visiblement pas les dimensions de ce vaisseau. Il reste tout juste le temps. Nous y allons alors?
Les deux se mirent à rire de plus belle. L'inconnu lui tendit sa main.
J'accepte votre aide avec plaisir, monsieur Good. Je m'appelle Adenor Kereshi. Je suis assistante technicienne normalement affectée à cette zone du transporteur. Tenez, regardez.
Et elle lui tendit son affectation toute froissée. Phil s'émut quelques secondes de parler à une personne portant le nom d'une étoile, puis pria intérieurement que ses maigres connaissances du vaisseau suffisent à la guider. La chance était avec lui. On l'avait assigné à un quartier voisin.
Oui, je vois où vous êtes. Ce n'est pas très loin. Deux ponts et une centaine de mètres.
De sa main libre, il s'imposa et prit un des sacs, qui semblait peser une tonne.
Dites-moi, vous aimez voyager avec vos poids et halter? Ou c'est un souvenir de famille?
Demanda-t-il péniblement tout en se traînant.
Je vous prie de m'excuser. Je suis une collectionneuse de pierres rares et cristaux. Là, vous emportez une partie de ma collection avec vous. Je peux reprendre le sac s'il est trop lourd pour vous.
Insinua-t-elle avec malice. Phil, touché en pleine virilité, serra les poings. Et tâchant de dissimuler ses efforts, tenta bravement une sortie.
Non. Aucun problème. Je me posais juste la question, c'est tout.
Merci vraiment, vous êtes gentil. Pour vous remercier, vous m'inviterez ce soir. Vous serez la première personne que je connaîtrai dans ce voyage. Acceptez-vous de me supporter encore quelques heures?
Je m'en ferai un plaisir. 21h si ça vous va, mademoiselle Kereshi.
Proposa-t-il en tentant un sourire.
Parfait. Et appelez-moi Adenor, très cher Phil.
Entre deux souffles, celui-ci croisa une œillade de la jeune femme à son attention. S'il n'y avait pas ces kilos de minéraux, la situation serait agréable. Ralato montait 4 à 4 les marches de l'escalier, malgré la semi-pénombre de l'endroit, où l'humidité rendait les dalles luisantes et glissantes. Il arpentait souvent ce sombre couloir froid, apportant rapports et analyses destinés personnellement à son chef. En effet, ce passage secret, dans la plus pure tradition des romans du passé, n'était connu que d'une toute petite poignée d'élus. Il partait d'une cave située à 200 mètres du ministère de la Sécurité, pour aboutir directement dans le bureau de son locataire, et, depuis la Révolution, ce poste était dévolu au redoutable contre-amiral Pophéus. Arrivé en haut des marches devant une porte blindée, Ralato pressa un interrupteur mural, puis s'installa dans la tente. Un discret signal venait d'indiquer à son chef que quelqu'un désirait le voir. Suivant son activité ou la présence d'importuns autour de lui, celui-ci allait attendre le moment qu'il jugerait propice pour ouvrir la porte dissimulée dans des moulures de bois derrière lui, et, enfin, laisser rentrer son interlocuteur. Cela pouvait être long, voire très long. Le lieutenant inspira profondément, observant la vapeur de sa respiration remonter le long des murs de vieilles pierres autour de lui. Sans bruit, une petite araignée se laissait descendre de la voûte du plafond, tissant consciencieusement un des fils de son futur piège à insectes. Ce passage datait du début de la royauté, il avait plusieurs centaines d'années, et n'était évidemment pas nettoyé souvent. Chaque dizaine d'années, on faisait venir une équipe de ménage et un ou deux ouvriers. Puis on les faisait tous disparaître pour conserver le secret. L'araignée s'arrêta à mi-hauteur du corridor, se balança de droite à gauche, jusqu'à en toucher un des côtés, puis remonta tranquillement pour la seconde étape. À ce rythme, elle avait des chances de finir son œuvre avant la nuit. À son instar, Ralato Uli était besogneux et patient. Ses aptitudes de mental lui permettaient de mettre à profit les moments d'inactivité de multiples manières. Cela allait simplement de surveiller les activités de son employeur. Une fois, le lieutenant était même reparti boire un petit thé à l'armurerie car le contre-amiral était occupé à prendre du plaisir avec un mignon. Autant dire que rien ne pressait alors. Mais également d'écouter les pensées de toute personne passant dans son rayon d'action, soit plusieurs dizaines de mètres. Les informations captées étaient de toutes sortes, des liaisons entre fonctionnaires aux sombres machinations du service de renseignement de l'armée, de dettes de jeu des accompagnateurs de manteaux, aux simples disparitions d'objets usuels. Pour espionner les différents étages, il suffisait à Ralato de faire le yo-yo dans l'escalier, parcourant secrètement les tribulations de pratiquement tout le monde au ministère. Ainsi, telle cette araignée, il tissait lui aussi consciencieusement les fils de sa toile. C'était de cette manière qu'il avait découvert le double jeu de l'espion d'Azala, qui partageait son temps entre turpitude sexuelle avec Pophéus et écriture de rapports pour la princesse. Le petit malin avait réussi à cacher cela au fond de sa conscience. Forcément, ce fut cette information qui avait fait pencher la balance en faveur du bannissement de l'ancienne héritière du trône. Ralato se concentra sur le bureau du contre-amiral Pophéus. Non, l'interlocuteur de son chef était toujours présent. Ralato allait devoir encore patienter. Changeant d'appui, il replongea dans ses pensées. Un cas intéressant que cette princesse Azala. Elle était passée au travers des tourments de la révolution Castix, conservant une partie de la fortune familiale et même certains privilèges, alors que son père n'avait pu protéger jusqu'à sa propre vie. Preuve de sa redoutable intelligence, elle avait même réussi à créer un réseau de sympathisants, cloisonnés en cellules, puis en ramifications que l'on retrouvait dans des cabinets ministériels et même dans l'armée. Les services de Pophéus avaient du mal à les débusquer, n'ayant d'autre choix que de les écraser l'un après l'autre dans un épuisant jeu de chats et de souris. Autre preuve de l'originalité de la princesse, la redoutable Benkana, farouche chef révolutionnaire reconnu que l'on avait missionné pour la surveiller et l'entraver, avait pris fait et cause pour elle et s'était même retrouvée dans son lit. Ralato n'en revenait toujours pas. Évidemment, c'était avant que l'Exode ne bouleverse tout. Une bonne partie du réseau Azala s'y était naturellement retrouvée, débarrassant le plancher proprement. Mais qu'adviendrait-il des partisans restés sur place? Une des priorités des services de sécurité était de les retrouver et de les neutraliser. Pourtant, le mental sentait qu'on laissait passer quelque chose de plus grave encore. La flotte de l'Exode, de par sa composition, était une grave menace, un formidable danger potentiel dont on risquait d'avoir à payer la dette dans plusieurs années, voire plusieurs générations. Le contre-amiral et lui étaient du même avis sur ce sujet. Sans la couardise du Conseil de la Révolution, qui trouvait que commencer une nouvelle période par un immense massacre faisait tache dans l'histoire, ce seraient des mines explosives et pas des vivres que l'on chargerait actuellement à bord du transporteur sur Maman Lolo, et Ralato et ses manteaux se chargeraient de réécrire les livres d'histoire. Mais trêve de tergiversation. Le rendez-vous de Pophéus s'éloignait enfin, et d'ici peu, la porte allait s'ouvrir. D'après le sondage des pensées de celui qui partait, le maître de ces lieux était d'humeur égale. Une petite lumière bleue au-dessus de l'interrupteur mural clignota, et, dans un discret claquement, Ralato ouvrit la porte, s'introduisant dans le bureau du ministre. L'ambiance à l'intérieur était à l'opposé de celle du corridor froid et humide. De hautes baies vitrées illuminaient une grande pièce à la décoration pompeusement alourdie par des siècles d'ancien régime. Tapis épais, chandeliers, moulures, dorures, cheminées flamboyantes et même des toiles accrochées au mur représentant quelques célébrités passées. Au ministère de la Sécurité, on soignait la continuité, ce bureau n'ayant guère changé sous la Révolution. Le rapport en lui-même ne dura que quelques minutes, apportant des précisions sur les enquêtes en interne d'agents infiltrés ou retournés du réseau Azala, ainsi que des rumeurs concernant un nouveau type de contestataire plus organisé. Plusieurs recherches d'informations étaient ouvertes sur ce sujet, et on pouvait en espérer rapidement des résultats satisfaisants. Le contre-amiral Pophéus écouta avec attention, puis, après quelques secondes de réflexion, congédia son homme de confiance, qui s'effaça discrètement par le passage secret. L'agent Ralato Ouli était un homme efficace, sans ses notions de bien ou de mal qui ternissaient la réputation des bons éléments. Le ministre le savait et appréciait les qualités de celui qui était son second, ou dirait-on à d'autres périodes, son âme damnée. Ses facultés mentales étaient un atout dans la profession qu'il exerçait, bien qu'il y avait plus d'un mental travaillant dans ses murs. Non, ce que Pophéus admirait le plus chez son lieutenant, c'était cette logique implacable, cette terrible machine à calculer qui lui occupait le cerveau. N'avait-il pas proposé lui-même son propre frère Fabio pour servir au sombre projet de déstabilisation de la flotte de l'Exode, une vraie mission suicide pourtant? Avait-il hésité à torturer l'espion d'Azala? Ou à faire disparaître des témoins si nombreux que Pophéus lui-même en ignorait le décompte exact. Cet homme était une perle pour les affaires mentales. Et pourtant, malgré toutes ses preuves de loyauté indubitable, le contre-amiral savait que l'on devait se méfier de ses amis autant que de ses ennemis. Ralato connaissait tous les rouages, tous les secrets de la mécanique du ministère. Il connaissait les mensonges intimes de toute personne croisant son chemin, allant jusqu'à décrypter les subconscients. Un être aussi doué et efficace aurait dû être lui-même supprimé, car il pouvait menacer tout le monde dans le milieu des comploteurs et des espions, alliés comme ennemis. Le destin avait cependant offert au contre-amiral un cadeau dont le prix, inimaginable, lui permettait de profiter pleinement des talents du lieutenant Alato, comme de tout mental, tout en conservant ses pensées profondes à l'abri. C'était il y a déjà quelques années, avant la chute de la royauté. Pophéus, haut responsable des affaires mentales, supervisait en secret des recherches sur le développement d'une arme psychique qui ne laisserait pas de traces. Son maître d'œuvre était un spécialiste en psychiatrie mentale, le docteur Carmack. Un fou dangereux que l'on avait sauvé in extremis de la sentence ultime pour toute une série d'expériences qu'il avait commises au nom de sa science. Expériences qu'il put ensuite reproduire à loisir dans un satellite artificiel que l'armée lui mit alors à disposition. Ses recherches portaient sur les manteaux. Il voulait découvrir comment s'accaparer leur pouvoir, mais également comment s'en protéger. Encore maintenant, la meilleure protection contre un mental reste un autre mental. Alors, comme dit l'adage, qui protège du protecteur ? Donc, Carmack farfouillait dans le cerveau de ses victimes, tentant de comprendre. C'est lui qui, par exemple, avait découvert l'incroyable existence de Fabio Oli et de son frère. Un petit buzzer sortit le contre-amiral de ses rêveries. Cela lui arrivait de plus en plus souvent de partir voguer dans sa vie passée. Un peu comme des moments de fatigue où il ne pourrait plus retenir son esprit. D'après son agenda, il avait rendez-vous dans une heure à l'ancien palais royal, où se tenait chaque semaine une séance générale du Conseil de la Révolution. Une fois à bord de son véhicule, entouré de l'escorte habituelle aux déplacements des personnages importants de l'État, le contre-amiral Pophéus se laissa à nouveau vaquer à ses pensées. Ralato Uli était un personnage efficace et dangereux, sans même ses facultés, tandis que son frère Fabio était dangereux de par l'étendue même de ses pouvoirs. Et comme par hasard, ils étaient les deux seuls manteaux affiliés connus. Normalement, il y avait plusieurs générations entre deux manteaux dans une même lignée, et encore, quand il y en avait deux, certaines familles princières s'enorgueillissaient d'avoir eu trois manteaux dans leur famille, sur 17 générations, une gloire bien mesquine en fin de compte. Ces deux-là étaient une énigme, et probablement que l'on n'aura jamais de réponse si le plan de Ralato réussissait. Dans un soupir, le contre-amiral regretta le professeur Carmack, un des rares qui aurait peut-être pu lui apporter un éclaircissement. Et cette pensée le ramena tout naturellement à l'accident. Carmack axait ses découvertes sur un but simple. Pour s'affranchir d'une généalogie mentale incontrôlable, on devait tenter le transfert de ses pouvoirs d'un individu à un autre ne les possédant pas. Cela entraînait systématiquement la mort du mental d'origine, mais dans certains cas, on avait constaté l'apparition de facultés propres aux mentaux chez le sujet de destination. C'était en fin d'année, lui semblait-il. Exalté par quelques percées significatives, il avait invité toute une clique de généraux et autres hauts gradés de l'armée pour une présentation au sein de son satellite. Et Pophéus en faisait évidemment partie. Accueilli à grand renfort de remerciements, par un Carmack débordant de cette joie caractéristique d'un enfant ayant une bonne note à montrer à ses parents, les dignitaires prirent place pour assister à l'expérience. On les installa sur des gradins suspendus au-dessus d'une haute pièce, et quelques rafraîchissements leur furent distribués dans l'attente du commencement de l'expérience. Au centre, se trouvaient deux lits déjà occupés par deux personnes endormies sous sédatifs. L'une était sanglée solidement, sans aucun doute le mental, l'autre, le volontaire receveur, n'étant pas attaché. Une sorte de machine d'aimante formée d'une multitude de prismes tournant sur eux-mêmes trônait entre les deux protagonistes, et, de la base de l'engin fou, partaient deux fils fins et translucides aux extrémités fixées par chirurgie à la base des nuques de nos cobayes. Enfin, de nombreux appareils de contrôle médicaux surveillaient en permanence l'état des patients et deux infirmiers veillaient dans un coin de la salle. Le contre-amiral était aux côtés du psychiatre pour présenter le futur exploit. Quelques formules d'introduction, quelques présentations, et voici que l'expérience pouvait commencer. Le rapport secret de l'enquête déterminera plus tard que la disposition des protagonistes était la clé de l'accident. Au centre, la machine et les deux cobayes, surplombés par des gradins en métal, et entre les deux, une plateforme suspendue à un bras, avec Pophéus et Carmack debout. Parmi les facteurs négligés par le psychiatre fou, un communicateur portable à long rayon d'action dans la poche de Pophéus, et une éruption solaire de forte intensité alors que le satellite n'était pas protégé derrière la planète Materwan. Sur le dit rapport, on reconstitua la chronologie suivante. 10h05, début de l'expérience. Tous les appareils nécessaires sont mis sous tension. Aucun incident ni dérèglement n'est à noter. 10h09, explosion à la surface du Soleil. Une vague électromagnétique s'éloigne à la vitesse de la lumière en direction de Materwan. 10h10, Pophéus reçoit un appel. Le destin étant joueur, il s'agissait du rapport de réussite de la rafle de Fabio et Ralato dans les montagnes. 10h16, la vague solaire frappe le satellite de plein fouet. Des perturbations électriques font sauter les disjoncteurs, les générateurs secondaires s'activent automatiquement. 10h17 et 5 secondes. Les gradins produisent un effet de concentration des ondes électromagnétiques et les dirigent sur l'appareil à prisme. 10h17 et 9 secondes. Le mental normalement sous sédatif se réveille les yeux exorbités et hurle comme un fou alors que du sang s'échappe de plusieurs orifices de sa tête. 10h17 et 11 secondes. Un arc électrique puissant se forme entre la machine et le gradin de Pophéus et Carmack. Le métal du communicateur de Pophéus amène directement la charge à ses tempes, tandis qu'elle irradie dans le corps du professeur Carmack. 10h17 et 23 secondes. Tous les générateurs secondaires encore en activité sont coupés. L'arc électrique s'arrête, et les lumières de secours s'éteignent. La station entière tombe dans l'obscurité. Les systèmes de survie sont coupés. 10h18. Le contre-amiral Pophéus ainsi que le psychiatre Carmack s'évanouissent dans leur gradin. 10h19. Le mental meurt. La machine sature en envoyant une ultime pulsation psychique qui tue tous les êtres conscients à bord de la station. 11h24. Le psychiatre Carmack se réveille et constate l'étendue du drame. L'oxygène s'est raréfié, mais est encore suffisant vu qu'il ne reste que deux personnes en vie. 11h33. Il lance un appel de détresse grâce au système de largage manuel d'une balise militaire. Une demi-heure plus tard, un patrouilleur de la seconde flotte accostera la station. Tous les généraux, les infirmiers, les auxiliaires médicaux, les gardes et les deux cobayes avaient trouvé la mort. Le psychiatre n'avait en apparence que quelques brûlures internes, mais on diagnostiqua la formation d'un œdème au sous-lobe frontal. Une opération chirurgicale n'étant pas possible, il décédera quelques années plus tard. Le contre-amiral Pophéus sortit du coma après une semaine, et mis à part de légères séquelles de mémoire immédiate, une plaie superficielle au crâne et une brûlure à l'oreille, rien ne semblait anormal sur le plan physique ou psychique. À un détail près. À partir de ce jour, le contre-amiral Pophéus était devenu transparent à tout pouvoir mental. En fait, il n'existait plus pour les esprits mentaux, sinon par leurs propres yeux. Pophéus était désormais au-dessus des manteaux. Il était le seul être de Materwan intouchable par leur pouvoir. Semblant se réveiller d'un sommeil léger, le ministre de la Sécurité grommela, puis sortit de son véhicule pour traverser la cour de l'ancien palais royal. Maudites échappées de conscience.
À suivre. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur raiduniverse.fr.